Théo, c'est ce jeune garçon autiste, 20 ans, qui était venu avec un institut médico-éducatif. Et Théo, là où on commence à ranger le bateau, il me regarde et il me pointe du doigt. Il me dit « Oui, capitaine, il paraît que t'es patron. T'as pas un métier pour moi. » Et là, j'étais pas du tout préparé à cette question. Donc je lui ai répondu en disant « Non, j'ai pas de métier pour toi, Théo. » Et là, son visage qui était tout joyeux s'est refermé et il m'a dit « C'est pas juste. Parce que oui, je suis handicapé, mais je peux être utile. Alors je veux un métier. Comme toi. » Et là, je suis rentré à la maison et j'étais par terre.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. J'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui à un prix, le prix Trophée de l'Avenir que je présidais il y a quelques années de ça, sur Europe 1. Il avait gagné d'ailleurs le Trophée de la Solidarité. Et on a continué nos échanges par la suite, on s'est vu plusieurs fois. Je l'ai trouvé habité par sa cause, par sa mission. Parisien de naissance, mais breton de cœur, sa nature rebelle ne l'a pas empêché de suivre de belles études à l'EM Lyon avant d'intégrer Danone, puis l'entreprise familiale. Une vie à 100 à l'heure, freinée par la maladie de son épouse, qui leur fera comprendre qu'ils ont besoin d'impact, de sens et de sérénité dans leur vie. Ils fondent d'abord Émeraude Voile Solidaire, qui permet d'emmener en mer des personnes fragilisées. Puis en 2017, ils se jettent de nouveau ensemble dans la grande aventure du Café Joyeux, qui souhaite lutter en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde de l'entreprise. Mission de vie, maladie mentale, neuroatypisme, l'entrepreneur inspirant se livre sur son histoire et nous raconte les coulisses ainsi que l'impact de son aventure entrepreneuriale engagée et innovante. Bonjour, Yann Bucaille-Lorozac.
Bonjour Alexandre.
Comment tu vas ?
Je vais bien, je me sens bien ici, là. Je me sens bien accueilli.
T'es né à la fin des années 60, sur Rennes, en banlieue parisienne, fratrie de 4 enfants. On s'est engagé aujourd'hui, Café Joyeux, on en parlera de ce qui t'a amené à Café Joyeux. Mais tu penses que l'éducation a beaucoup joué dans cette bienveillance, dans cet altruisme ?
C'est d'abord un héritage, oui, c'est un héritage. Souvent, sans le savoir, on est comme on est parce qu'il y a plusieurs générations. Alors ça, c'est quelque chose de génétique peut-être. Mais ensuite, c'est vraiment aussi tu as raison, tu poses la bonne question. L'éducation est essentielle. Moi, j'ai d'abord effectivement une fratrie de 4 enfants. On était très famille. Un grand esprit de famille. On habitait sous le même toit avec mes cousins, mes frères et sœurs, d'autres cousins. On était toujours ensemble. Et un mélange de générations, les copains de mes parents ensemble. Et puis après, bon, j'étais scolarisé dans des lycées plutôt classiques. J'étais chez les jésuites. Ça peut-être même ça.
Les gestes, comme vous dites, c'est ça.
C'est une éducation assez exigeante. Parfois, ça m'a fait même du mal. J'ai trouvé que c'était très, très dur. Ils cherchent tellement à faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même et à aller tirer le meilleur de chaque élève que parfois, c'est à nous en faire souffrir. Et en même temps, une éducation ultra pragmatique, tournée vers les autres. Moi, j'ai des souvenirs qui m'ont marqué à vie chez les GES, où effectivement, on était amené à mettre le peu qu'on avait à profit de causes, d'associations, des sorties qui nous ont beaucoup marqué, en tout cas moi qui m'ont marqué.
Tes parents sont fans de voile, j'ai l'impression que ta maman plus que fan de voile, parce qu'elle avait un magasin sur tout ce qui touche le nautisme.
Ouais.
En région parisienne.
Ouais, t'es vraiment bien renseigné. Elle avait une boutique qui s'appelait Émeraude Marine.
C'est la côte Émeraude, donc.
Ouais, la côte d'Émeraude. Le nom vient de là-bas parce qu'on est effectivement, notre cœur est en Bretagne Nord. La côte d'Émeraude, c'est entre Cancale et le Cap Fréhel. Donc là, tu as Saint-Malo, tu as Saint-Cas, Dinard, Saint-Lunaire. Et ça, c'est un endroit qui est magnifique.
Toi, t'es la première génération
expatrié, en fait, de la première génération.
Non, mon grand-père, était déjà parisien, il était notaire à Paris.
D'accord.
Et en fait, il était entrepreneur en Bretagne. Donc, en fait, ils avaient déjà un pied des deux côtés.
D'accord.
Donc, on était... moi, j'ai grandi à Paris, mais je passais tout le temps libre que j'avais en Bretagne à naviguer, parce que mon truc, c'était de faire de la voile. Et effectivement, ma mère avait une boutique rue des Petits Champs, près de la place des Victoires. C'était complètement surprenant. C'est-à-dire que tu pouvais, tu étais à collé au Palais Royal et tu pouvais aller acheter une combinaison isotherme, des manilles, une ceinture de trapèze. Le truc complètement.
Donc, ça, quand tu as 10, 12, 15 ans, c'est ça que tu veux faire? C'est que tu veux être skipper? Tu veux en faire ton métier?
Moi, c'était plus la planche. J'aimais les sensations du windsurf. J'ai fait la planche très, très jeune.
Donc, à tel point que tu construis ta planche à voile dans ta baignoire, c'est ça?
Ouais,
c'est ça.
Ouais, je faisais. Alors, je sais pas où t'es allé chercher ça, mais je fabriquais ma planche et.
Tu fabriquais tes planches.
J'ai même fait un snowboard dans la salle de bain de mes parents, parce qu'on avait qu'une salle de bain pour tout l'appart. Et donc.
Ils étaient contents.
Ça sentait la résine époxy. Il fallait que j'ai vite terminé avant que mon père rentre du bureau, parce que je pouvais pas enlever l'odeur, mais au moins que ce soit un peu dégagé. Et c'est vrai que j'aimais bien fabriquer des planches et surtout j'aimais naviguer, faire de la planche parce que j'aimais les sensations de la voile. Et donc dès l'âge de 8-10 ans, je commençais à naviguer. Donc c'est sûr, j'aimais le windsurf. La voile de bateau de croisière, c'est venu plus tard.
Tu vas être skipper avec un des très grands marins qui est Marc Pajot. Donc là on est dans la Coupe de l'Amérique, on est en 1994-95. Ouais. Donc là, t'as tiqué une boxe.
Hein. Ouais, là, c'est un aboutissement quelque part. Alors, j'étais pas skipper, hein. j'étais équipier.
Mais oui, excuse-moi. Donc, mais, pour expliquer, là tu faisais partie de cette équipe qui était combien de personnes qui étaient sur le bateau?
Donc, j'étais en fait sur le bateau. Il y avait
des monocoques. Oui, c'était des monocoques. À l'époque, c'était des monocoques. Hein.
Exactement. Les classes américaines, à l'époque, c'était des monocoques. Des bateaux qui avaient
15 personnes, mais 16
personnes. On était 16 à bord. Et c'était un équipage de 24 personnes parce qu'il y avait 8 remplaçants. Et moi, j'étais dans l'équipage remplaçant. J'étais le jeune de la bande, mais j'étais tellement fier de faire partie de cette équipe. Pour moi, c'était dingue, quoi.
Ce rêve devient réalité quand tu fais ça. On sait, les gens qui te connaissent bien disent que tu es un rêveur. Alors, c'est toujours intéressant quand les gens disent rêveur, parce que tu as cette optique de dire parfois, on sait que ça ne reste qu'un rêve. Je suis sûr que si je te pose la question aujourd'hui de Café Joyeux, tu me diras, l'objectif, c'est qu'il y en ait dans toutes les villes de France. Mmh. Tu sais que ce ne sera pas faisable. Ce n'est pas pour autant que ça n'est pas un rêve. Mmh. Et en parlant de rêve, tu me racontes ces chaussures que tu appelais nuages.
Ah oui, alors ça, nuage, c'est quand j'étais à l'EM, il y avait une...
Donc l'EM Lyon.
L'EM Lyon, exactement. On était, à l'époque ça s'appelait l'ESC Lyon, et on avait un des cours que je préférais, c'était le cours création d'entreprise, où là on avait une vraie liberté d'action et on pouvait imaginer un peu tout ce qu'on voulait, qui sortait du cadre. Moi, j'aimais ce genre de cours où, en fait, on pouvait faire appel à la créativité. Et j'avais, avec une amie, Aurélie, décidé, donc on était en duo, de créer une entreprise qui fabriquait des
tongs,
chaussures,
c'est ça.
Des tongs. C'était avant l'arrivée de Havaianas, ouais. En fait. On était, alors je dis pas qu'on était avant-gardiste, parce qu'ils n'étaient pas les seuls à faire ça,
mais
c'était un côté ringard. Je disais à tout le monde, je veux faire des tongs. Tout le monde disait à cette époque-là, je disais, mais c'est ridicule, les tongs, personne ne veut mettre des tongs. Sauf que nous, on avait ce rêve de faire des tongs très confortables, avec, en fait, une semelle ultra épaisse, mais très souple, comme si tu marchais sur un nuage. Donc on appelait ça nuage. Et bon, voilà ça.
Donc, ce rêve d'entrepreneuriat, il arrive très tôt là, parce que ton papa est entrepreneur. Tu me parlais de ton grand-père au préalable. Pour toi, c'est une lignée?
Je pense que c'est un héritage qui est venu naturellement, effectivement, parce que à la maison, on parlait énormément d'entreprise. Moi, j'ai vu effectivement mon grand-père créer plusieurs activités, notamment dans le maritime, puisqu'il avait une entreprise qui était un navire à passagers qui emmenait des gens de Saint-Malo à Dinard, donc là on est sur la côte d'Émeraude, puis il emmenait des gens de Saint-Malo à Jersey, sur les îles anglo-normandes. Et c'était un bateau à passagers avec des voitures aussi. Tu pouvais embarquer avec des voitures. Donc j'ai vécu des moments avec mon grand-père assez étonnants. Mon père, qui était entrepreneur tardivement, puisqu'il a créé sa boîte à 50 ans, et puis je l'ai rejoint, et j'ai travaillé avec lui. Ça m'a donné ce goût, effectivement, de l'entreprise familiale dans le sens noble du terme.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand tu as rejoint ton papa, et quels sont les côtés extrêmement positifs?
Je pense qu'il faut que les règles du jeu soient assez claires au début. C'est la seule chose que j'ai envie de dire. La plus belle...
Donc, en fait, qui est le boss, en fait,
enfin, ouais, qui est le boss, voilà. Donc, mon père était le boss. Moi, j'étais juste, j'étais un employé. Bon, je suis arrivé, j'étais le septième de l'entreprise. Donc, c'est pas comme si on était une multinationale non plus. Mais c'est bien de savoir qu'on vient. Les règles du jeu, c'est-à-dire tu viens travailler, tu as un travail sans faire de plan au départ. C'est pas comme si je venais pour reprendre. Et puis après, quand j'ai repris, les règles étaient très claires. C'est-à-dire que mon père a dit, bah, tu reprends à deux conditions. C'est tu désintéresses tout le monde, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Donc tu rachètes leur part en totalité. Je veux que tu sois tout seul à bord. Et c'est moi, le pacha, donc mon père, qui décide du prix. Et ça, je trouve que c'était une règle du jeu très, très intéressante, très juste. En tout cas, nous, elle nous a beaucoup servi parce qu'on est resté toute la vie ultra soudés en famille. Pas de chamaillerie pour des questions d'argent. Mmh. C'était, j'ai pris mes risques. Ils ont pris leur chèque.
Ça s'est bien passé.
Ça s'est très bien passé. Bon, on a eu un souci juste après. J'ai pu prendre un petit prêt. Mais c'était une petite boîte. Hein, ouais. Je sais pas. Mais il y a eu des. On a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire un petit peu après, parce qu'à l'époque, on faisait 80% de nos chiffres là-bas. Mais ce que je voulais dire, Alexandre, sur les chances, et ça. Par rapport à des jeunes ou moins jeunes qui ont la possibilité de travailler avec leur père ou leur mère, c'est une chance incroyable. Moi, j'ai appris à une vitesse incroyable. Je rends grâce tous les jours d'avoir bossé à l'âge de 26, 30 ans, à voyager avec mon père. On était dans les avions, on dormait dans la même chambre et on allait à tous les mêmes rendez-vous. En fait, son agenda, c'était mon agenda et mon agenda, c'était le sien. On vivait et j'ai eu l'impression à 25 ans de découvrir mon père, alors que je pensais le connaître par cœur. Et ça, et puis ce qui est super aussi, c'est que la confiance familiale fait qu'on apprend beaucoup plus vite. Parce que...
Il n'y a rien, tout est transparent.
Ouais. Après, c'est aussi une école d'humilité un petit peu quand même.
C'est-à-dire ?
Parce que
tu dois être toujours derrière, ça.
Tu dois être toujours derrière, parce qu'en gros, si ça marche, on dit c'est normal, il a eu ça sur un plateau, c'est la boîte de son père. Et si ça plante, on dit
il aurait fait des choses. C'est vrai, t'as rien, ça fait penser aux investisseurs et aux entrepreneurs. T'as raison. Ouais. Si ça fonctionne, ouais. c'est grâce à eux.
Une fois que t'as passé ça, après, franchement, faites-le, allez-y, les gars, vive l'entrepreneuriat familial.
Alors, ce qui est pas mal, c'est que toi, t'as continué après, parce qu'après, ton papa, t'es parti avec ton épouse. On va revenir. Mais est-ce que c'est réel? Ce que j'ai compris dans ton histoire d'étudiant, c'est que tu étais pas très bon, ce qui me paraît un peu compliqué quand je vois que tu as terminé à l'ESC Lyon, l'UM Lyon maintenant, qui est la quatrième école de commerce en France, et puis tu étais à Saint-Louis de Gonzague, qui est le lycée aussi, qui est un lycée prestigieux. Donc j'ai cru comprendre que tu n'étais pas excellent, et en plus de ça, tu étais extrêmement dissipé.
Je suis impressionné par ton service de renseignement généraux.
On sait tout.
Mais c'est vrai. C'est vrai. Écoute, c'est très simple, factuel. J'étais à Franklin, donc Saint-Louis de Gonzague, de la 6e à la 2e. Et j'ai redoublé ma classe de 3e. Je suis resté en 2e. J'ai redoublé parce que j'ai pas le niveau pour passer en 2e. J'ai finalement été en 2e après mon redoublement. Et à la fin de la 2e, je me suis fait virer.
quand même.
Pour deux raisons. Je pense que c'est les deux raisons que tu as évoquées. C'est qu'effectivement, j'étais pas tellement sur les rails, assez
académique,
dissipé et académique.
Non plus.
La chance que j'ai eue, c'est que je suis sorti de chez les GES. Je trouvais ça injuste. Et en même temps, j'étais content de partir, sauf que je me suis retrouvé dans une école de jésuites à Reims, une école qui s'appelle Saint-Joseph. Je ne sais pas si tu connais cette école. À l'époque, elle était assez réputée pour être très, très dure. Un pensionnat à la dure. Hein. C'est-à-dire que...
Et tes parents, ils t'ont envoyé là-bas, tes parents, pour dire « t'as déconné, tu vas, c'est la conséquence ?»
Ils ne me l'ont pas présenté comme ça.
J'ai très vite compris. Oh, tu vas t'amuser, ça va être génial. Bravo d'avoir été viré.
Ça va te faire du bien de t'éloigner de la maison. Tu ne nous supportes plus. Tu vas être content de t'éloigner. Et en fin de compte, boum. Là, c'était boum. C'est l'école, à l'époque, vraiment l'armée. C'est-à-dire que c'est une école où tu ne parles pas dans les couloirs, tu ne parles pas dans les dortoirs. C'est un dortoir de 120, des lits alignés. Je me souviens, 12 lavabos. Tu te brosses les dents en même temps que 12 par 12, en même temps que tes copains à côté, t'as pas le droit de parler. Et surtout, avec un rythme ultra sévère, la gym tous les matins. Donc, coup de sifflet le matin, on se réveille, on a 3 minutes pour descendre dans la cour. Et là, c'est la gym avec le chef d'état des équipes. Donc, c'est un chef d'équipe qui est en terminale qui anime la gym. Si jamais tu fais pas bien ta gym, t'es collé. Quand t'es collé, c'est que tu passes le week-end à ratisser le stade, ça s'appelait Cormont.
Tu peux avoir le gym sup,
le truc très très dur. J'ai halluciné quand on faisait la gym sup. Je pense que j'étais sportif à l'époque, puisque je faisais pas mal d'endurance, de marathon et autres. Et en fait, la gym sup, on te fait faire du sport jusqu'à ce que tu
vomisses.
Et ils se relaient tous, c'est-à-dire que tu vas courir avec quelqu'un, tu dis facile, je cours.
Ouais.
Je cours facile. Et puis lui, il est épuisé, sauf qu'il s'arrête, et puis il y en a un autre qui prend la suite, et puis il s'arrête, prend la suite, et toi, t'es à la fin. Et puis c'est pas que courir, c'est plein d'exercices très, très compliqués.
Donc ça te remet...
Ça m'a redonné le sens de... En fait, ça m'a énormément soudé dans un esprit finalement assez fraternel. Ouais, j'ai gardé les copains de Saint-Jean. Et surtout, après Saint-Jean, j'ai eu qu'une envie, c'est de retourner à Saint-Louis-de-Gonzague. Et là...
Ils t'ont accepté.
Ils m'ont accepté en terminale. Ça, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable qu'ils m'aient accepté de nouveau parce que, j'avais un peu bossé, mais j'avais pas un niveau énorme. Je me suis retrouvé à Saint-Louis-de-Gonzague en terminale à faire un bac correct. Et là, je me suis retrouvé en fait en fac. J'avais pas le niveau pour aller en prépa. Et j'ai été à Nanterre faire un bidog éco-anglais. Je sais pas si tu te souviens, ça existait à l'époque.
Bien sûr.
Et j'allais tous les jours à Nanterre à la fac. Et là, finalement, c'était un endroit où je me sentais à peu près au niveau par rapport à tous mes potes qui faisaient soit Sciences Po, soit des prépas HEC ou ingénieurs.
Et donc là ?
Et là, alors là, c'est un gros coup de chance. Ah. Je le dis parce que...
Une rencontre ?
Une envie de démontrer que j'étais capable quand même d'avoir un niveau académique peut-être qui va être reconnu, où en France tout fonctionne avec les diplômes, ce qui est un peu triste, hein, mais je me suis dit, bon, j'avais compris qu'il y avait ça, et c'était le début des admissions sur titre. Tu pouvais rentrer dans les écoles en
deuxième année.
Ouais. Alors moi je suis rentré en première année, parce qu'il y avait une admission parallèle en première année après ton DUG. Donc j'ai fait une prépa, là pour le coup, une prépa intégrée. Et je suis rentré en première année à l'EM Lyon, j'étais très très content.
On parlait tout à l'heure de ces rêves de voile, d'océan, quand tu termines l'EM Lyon, là ça se précise un peu ce que tu as envie de faire plus tard.
J'avais pas de projet en rentrant à l'EM Lyon, en dehors du fait de progresser... De construire des amitiés. J'ai eu des amitiés à l'EM Lyon qui sont restées, de même qu'à Saint-Louis-de-Gonzague aussi. J'ai gardé vraiment des groupes d'amis très très forts. Et pour moi, c'était plus important que le reste parce qu'il y avait une relation forte qui se créait et qui m'apportait. On se nourrissait avec mes potes et surtout en faisant du bateau. On fait énormément de voile.
Yann, je te propose maintenant une pause amicale, je devrais dire une pause familiale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît très bien de te poser une question surprise. On l'écoute.
Yann, alors, j'ai une petite question pour toi. Quel est le don que tu aurais aimé avoir reçu à la naissance et qu'a priori tu n'as pas reçu ? Voilà, merci.
Lidvine, ton épouse ?
Incroyable, ça c'est une question difficile. Spontanément comme ça c'est une question très difficile. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais plus sincèrement encore d'empathie, de goût de l'autre, d'écoute pour l'autre.
Tu l'as, ce don.
En fait, je l'ai travaillé.
Tu l'as travaillé.
Mais il n'est pas naturel. Enfin, il n'est pas naturel. Il est devenu naturel, mais il est vachement bossé, quoi. Et ça va avec l'humilité. Tu vois, en fait, Alexandre, je pense que... Là, je vais te le dire à toi, parce que je pense que tu vois... comprendre ça par cœur. Toi, ce que tu as créé, tout ce que tu as embarqué avec toi, je pense qu'on se ressemble là-dessus, c'est cette forme de magnanimité où tu as envie de voir grand pour... et donc, il y a quelque chose de très... quelque chose d'un bâtisseur. Toi, tu es un bâtisseur, je pense être un bâtisseur aussi, envie de construire. Et il doit être compensé, ce don, par de l'humilité. Parce que sinon... si on le fait parce que juste on est content de construire quelque chose et de regarder sa trace ou de regarder cette forteresse, regarde tout ça. Non, c'est pas
tu,
moi.
Tu penses pas que ça c'est aussi l'âge, peut-être aussi l'expérience que t'as, les coups que t'as reçus. Tu penses pas que c'est aussi ça qui nous donne cette humilité,
oui.
Qui nous rend compte que on n'est pas grand chose et que on est aussi des soldats.
Je suis tellement d'accord avec toi, tellement d'accord avec toi.
Mais ça me fait plaisir.
Mais j'ai envie de te dire quel dommage qu'on ait à prendre ces coups. Pour le devenir.
Ouais.
Tu vois, cette humilité, et donc la réponse, c'est si j'avais pu être plus humble, tu vois, dès la naissance, peut-être que ça m'aurait évité des coups, quoi. Maintenant, on apprend et on le devient un peu. Il y avait un an d'attente pour voir le docteur Cuche, qui était un des plus grands psychiatres de Paris. Quand je le vois, en fait, je me suis dit, je vais sortir de là. Et c'est bon, quoi, j'ai trouvé la solution. Et lui-même me dit, mais monsieur Bucaille, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le cerveau, c'est comme si vous l'étaliez sur une table et on prend les meilleurs experts israéliens, russes, français, américains sur la santé mentale. Et ce qu'on sait, nous tous, c'est pas plus grand que ce pins. Et c'est là que j'ai commencé à prier, en me disant, mais la solution, elle doit venir quelque part de là-haut.
On parle de Lidwin deux minutes. Lidwin, c'est un peu comme dans les films, un coup de foudre. Bah, coup de foudre très jeune. Elle a 14 ans, t'as 17 ans. Il y a un moment où vous quittez, vous dites que voilà, la vie, et puis vous retrouvez comme assez vite. Hein. Et depuis, voilà, c'est cette belle et longue histoire d'amour avec Lidwin.
Ouais, c'est étonnant. Il y a quelque chose peut-être de presque de chimique, en fait. On s'est vu. C'est un cousin du lycée de Franklin qui me l'a présenté à une soirée, qui était mon meilleur pote. Donc, lui n'était pas content, il n'était pas trop content que je... mais bon, j'ai vu à une de ses fêtes. Et puis finalement, je pense qu'aujourd'hui, il est très heureux. D'ailleurs, c'est mon témoin de mariage. Mais c'est vrai que ce coup de foudre nous a unis très vite avec effectivement des difficultés. Parce que bon, déjà, la première chose qu'elle médite, t'imagines, première discussion a démarré sur un mensonge. Elle me ment sur son âge.
Ah, bien sûr, mais c'est normal. Tu vois arriver, t'es grand. Quel âge elle s'est donné?
Elle n'a pas osé dire qu'elle avait 13 ans, parce qu'en fait, elle avait 13 ans quand je l'ai connue.
Et donc, d'accord, 15 ans quand tu l'as embrassée.
Et voilà, et donc là, en fait, elle m'a dit non, j'ai 15 ans. Donc, là,
toi, ça a passé. Toi, t'as envie de croire à ce mensonge aussi.
Ouais, j'ai envie de croire à ce mensonge. Et puis bon, elle était un peu grande pour son âge, peut-être, donc je l'ai cru. Et en fait, je lui en veux pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que quelle chance j'ai eu de l'avoir rencontrée, parce que je pense que j'aurais jamais, et on aurait ensemble, peut-être qu'on aurait fait autrement avec quelqu'un d'autre, mais je me dis qu'elle a été le déclencheur, l'élément, la pièce maîtresse de tout ce qu'on a pu construire après ensemble.
Juste après M. Lyon, tu vas chez Michelin, Danone. On a parlé rapidement de ton histoire où tu rejoins ton papa de votre entreprise. Donc, tout se passe dans une vision assez parfaite Instagram. Hein. Mmh. Tu grandis, tu prends des responsabilités, tu évolues dans la vie. Mais là, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu.
C'est vraiment ça. C'est une épreuve que je souhaite à personne. Et à commencer par pour elle, parce que je veux dire, la souffrance qu'a vécue, par laquelle est passée Lidwin, c'est des choses que personne ne peut comprendre, pas même des gens qui l'ont vécu, parce que chaque cas est particulier, mais j'ai essayé de mesurer à quel point elle était dans une épreuve insurmontable, avec par exemple des moments où elle me disait elle-même, j'aimerais qu'on m'arrache un bras, parce que en fait ça se voyait pas. Elle s'était incompris de ma famille, incompris de sa famille. Mais même mes parents en premier ne comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle a, la petite, quoi, elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Et de quoi elle se plaint?
C'est une accumulation de raisons qui, selon toi, a fait arriver à ce moment de bascule?
C'est toujours très angoissant pour un jeune couple. Souvent, tu passes de la phase romantique à la phase de la réalité de la vie. On s'est mariés, on a eu des enfants assez vite, des enfants merveilleux. Et chaque grossesse, Lidwin avait des difficultés morales, quoi, et des troubles de l'humeur. Et puis, ça s'est accentué à chaque fois. Et plus on avançait dans la vie, plus j'étais absente. Je travaillais
beaucoup,
beaucoup, beaucoup. Et vraiment à courir, à se demander dans quelle direction. Là où, effectivement, je la croyais... En fait, je la croyais plus forte, capable de supporter tout ça. Et puis, je pensais effectivement que je pouvais compenser grâce à plus de travail. En fait, il y a une espèce de cercle vertueux vicieux qui s'est mis en place et là où je la croyais plus forte, elle, ça lui faisait plus de pression, je pense. Après, il y a des explications plus peut-être aussi chimiques.
Mais ce qui m'étonne, tu vois, et c'est vrai que c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure dans le don, tu vois. C'est pas d'humilité uniquement. C'est toi qui grandit avec certaines valeurs chrétiennes fortes. Tu parlais des jésuites tout à l'heure. en fait, tu étais rentré toi aussi dans cette course du hamster, dans cette roue, en ayant mis de côté complètement ta mission de vie, qui aujourd'hui, elle est très clairement établie. Et donc, c'est pour ça, quand je parle de don tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est plutôt que tu as eu cette mission de vie un peu plus tôt, en fait. C'est que si, et c'est pour ça que j'en parle encore, et merci d'en parler très ouvertement avec Lidvine, parce que ce moment critique dans votre vie t'a fait réaliser.
Complètement. Ça a été un déclencheur douloureux. Bon, après, évidemment, 15 ans après, je dis un déclencheur formidable. Douloureux, on peut en parler plein de choses. Hein. Je veux dire, quand tu cours dans les avions d'un pays à l'autre à continuer de développer ta boîte et en même temps, tu rentres chez toi, ton épouse, ta femme va pas bien, tu la places dans une clinique psychiatrique. Lidvine, elle est restée plus d'un an dans des cliniques. Et en fait, mon job, c'était de la changer de clinique. Parce que ça se passait pas bien dans telle clinique, donc on allait dans une autre clinique.
Avec vos enfants.
Et puis les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants tout jeunes, t'en fais quoi? Les enfants qui étaient séparés de leur mère. Donc là, j'ai eu mes beaux-parents qui ont été héroïques, mais mes frères et sœurs, tout le monde à un moment a commencé à prendre conscience qu'il fallait aider. Donc la famille a été présente, mais sans vraiment comprendre non plus. Et Lidvine, elle a mis 3 ans à se remettre de ça. Donc c'est long.
C'est long.
C'est long. Et puis c'est dur parce que quand tu es la personne que tu aimes le plus au monde, qui c'est dur pour elle évidemment, c'est dur pour toi parce que tu dis en fait je suis pas capable de répondre et de lui apporter ce bonheur qu'elle mérite tellement. Et donc douloureux, très douloureux, avec des recherches de solutions. C'est tellement complexe le cerveau. C'est tellement complexe. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui va peut-être remplacer tout ça, mais
il y a plus de chance, quand même, à ce moment-là.
C'est très subtil. Et heureusement que la médecine est là, parce que la médecine a apporté aussi des molécules, des solutions. Lidvine a fait beaucoup d'électrochocs. C'est très, très douloureux, très compliqué aussi. C'était honteux. Elle en parle, hein, donc elle le dit. Parce qu'elle veut montrer aussi que c'est possible aux jeunes, qu'on peut aller mal et ressortir.
Et rebondir.
Mais elle est allée jusqu'à faire des... C'est en fait, on te déclenche des anesthésies générales et on te déclenche artificiellement des crises d'épilepsie avec des électrodes qu'on te met sur le cerveau et puis on déclenche ça. Et moi, je retrouvais Lidvine, mais c'est comme un légume, quoi. Parce que ça a une action sur ta mémoire, tu perds la mémoire court terme, tu perds... Bref, douloureux.
Merci de partager ça parce que ça arrive souvent autour de nous et parfois on ne le sait pas, parfois on ne comprend pas. Et donc c'est important de libérer la parole. À quel moment tu t'es dit ça, c'était un message, ça, il faut qu'on change notre quotidien? Est-ce que c'est un médecin qui vous a dit, Monsieur Bucaille, vous allez continuer à faire des centres à centres, votre vie ne va pas ici? À quel moment je te retrouve à Dinard?
En fait, là, il y a vraiment une dimension très profonde qui fait qu'on s'est relevé. Elle et moi, hein. Alors, moi, j'essayais de me préserver vraiment parce que je sentais que je pouvais m'embarquer aussi dans cette mauvaise dépression. Finalement, t'embarques du monde avec toi. Je voulais surtout pas flancher. Donc, j'arrivais à me protéger tout en étant très, très proche et très présent, enfin, le plus possible. Mais là où, effectivement, il y a eu un basculement, c'est une vraie conversion. Hein. C'est-à-dire que c'est là où véritablement, je me suis dit, mais tout ça nous dépasse. Moi, je pensais pouvoir contrôler un peu comme tout chef d'entreprise qui pilote tout son monde et qui pilote toute sa vie et qui pilote son agenda et qui pilote tout. Là, en fait, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas piloter. En fait, Alexandre, très, très simplement, je me suis mis à prier. Voilà, je me suis dit, mais s'il y a une solution, là où j'avais bossé pendant des années à trouver les bonnes solutions, trouver le bon médecin, il y avait un an d'attente pour voir le docteur Cuche, qui était un des plus grands psychiatres de Paris. Quand je le vois, en fait, je me suis dit, je vais sortir de là, c'est bon, quoi, j'ai trouvé la solution. Et en fait, lui-même me dit, mais monsieur Bucaille, vous pensez qu'en sortant, ça va être, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le cerveau, c'est comme si vous l'étaliez sur une table, comme ça, et on prend les meilleurs experts israéliens, russes, français, américains, sur la santé mentale, et ce qu'on sait, nous tous, c'est pas plus grand que ce pins, que cette miette-là sur la table. Donc là, je suis sorti de là en disant, mais...
Déprimé.
Déprimé, ça me dépasse. Et c'est là que j'ai commencé à prier. en me disant mais la solution, elle doit venir quelque part de là-haut. Et bon,
mais souvent, tu sais, quand ça arrive, parfois, soit c'est réellement toi, soit tu dis c'est la dernière chose qui peut m'aider.
En fait, je pense que c'était mon dernier ressort, alors que ça aurait dû être le premier. Mais parce qu'à l'époque, je n'étais pas pratiquant, j'étais croyant de loin, on va dire.
Oui, tu as grandi dans une éducation oui. plutôt religieuse, j'étais, plutôt chrétienne.
À l'époque, j'étais un catho d'élevage.
Ouais. Voilà. Tu avais ça, un catho d'élevage.
Ouais. Tu sors avec le... Et au mieux, tu vas de temps en temps à la messe le dimanche, ouais. mais c'est tout. Quoi. Je suis devenu plus, après ça, plus un catho sauvage, ouais. tu vois. Ça a été un déclencheur énorme.
C'est quoi un catho sauvage pour toi ? D'élevage, j'ai compris, maintenant.
Catho sauvage, c'est qu'en fait, je pense et j'aimerais que ma foi grandisse chaque jour. Mais vraiment, sincèrement, j'ai envie, parce que je pense que, quelque part, on est tous des êtres surnaturels. Et la présence de Dieu et de Jésus doit être, enfin, pour moi, est dans notre cœur. J'ai envie qu'elle explose, quoi.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je le sens et que c'est important pour toi, mais je le vois assez peu. Ce que j'apprécie d'ailleurs, hein, je le vois assez peu dans ta communication, je le vois... En fait, souvent, tu pourrais dire que quand c'était tombé dessus, à un moment, comme toi, où tu pourrais, matin, midi et soir, prêcher... Et en fait, c'est pas ce que tu fais.
Non. Non, parce que je suis entrepreneur dans un pays laïque, et qui a une énorme force, qui est justement l'ouverture à tous, à toutes les convictions. Et mon souhait, il est certainement pas d'aller provoquer ou d'aller... Moi, mon souhait, il est surtout pas... je pense que le non au prosélytisme, oui, pour me concernant. Et j'admire tous les prêtres. Je suis dans ce monde à m'intéresser à l'homme et à lui permettre potentiellement de connaître en fait cette fraternité qui doit pas être exclusive de
mais vraiment inclusive
de mes convictions. Mes convictions peut-être ensuite elles rayonnent sur le reste, mais elles sont pas affichées. Non,
donc vous ralentissez.
Oui, Ludivine aujourd'hui c'est incroyable, parce que elle s'est redressée. C'est pas seulement qu'elle tient debout, c'est que beaucoup de gens s'appuient sur elle. C'est à dire que en fait elle en est sortie de cette épreuve complètement indescriptible. Elle en est sortie grandie, elle en est sortie pas seulement guérie, mais plus forte, j'ai envie de dire même plus belle, parce qu'avec une profondeur intérieure, avec une justesse dans son appréciation des autres, et surtout une capacité à non seulement à connaître ses limites, les limites des autres, et du coup à aller plus loin avec les autres. Ce qui est incroyable, c'est qu'on était tellement content, tellement joyeux de voir que c'était derrière nous, que ça nous a donné des ailes pour aller plus loin, pour faire plus de choses. C'est évidemment ce qui a donné naissance à EFATA et l'association Émeraude Voile Solidaire, le bateau. Mais ça nous a donné aussi la possibilité de faire des choses que je pense qu'on n'aurait jamais eu envie de faire avant. Par exemple, on a un jour pris la décision d'accueillir des réfugiés chez nous. C'est la famille Jaola. Aujourd'hui, c'est des frères, Nabil et Timad, des Irakiens du Kurdistan qui ont dû fuir leur ville qui a été totalement massacrée par Daesh et qui se sont retrouvés réfugiés politiques à Erbil, puis qu'on a réussi à faire venir en France. Et ils sont arrivés en France, ils ont habité à la maison pendant 9 mois. Et je peux te dire que ça, c'est sans doute un des plus beaux cadeaux qu'on ait reçus. Peut-être la plus grande chance qu'on ait vécue en famille. Nabil, il était patron d'une entreprise de 12 personnes. Il s'est retrouvé sans emploi. Il a fallu trouver un travail. Et ça aussi, ça m'a fait comprendre à quel point le travail, c'est déterminant pour l'insertion. Voilà, en fait, cette épreuve, Lidvine, elle en est sortie vraiment, mais avec une démonstration qu'il ne faut jamais, jamais désespérer.
Là, vous allez avoir un projet, votre premier projet tous les deux. Là, on se retrouve à Dinard, Castelbrac, donc un hôtel. C'est votre nouvelle résidence, ouais. La Bretagne Nord. Et on va avancer pour parler de cette association que vous créez, qui s'appelle Émeraude Voile Solidaire, Tu fais construire un catamaran qui s'appelle Ephata. Alors, Ephata, tu...
Ephata, c'est un verset de la Bible où tu as Jésus qui guérit un aveugle. Et en fait, il dit Ephata en araméen, ça veut dire, et il lui dit ouvre-toi, c'est-à-dire ouvre ton cœur. C'est de l'araméen, et en fait, nous, on a trouvé que ce nom, il s'adressait beaucoup à nous, c'était justement de nous ouvrir, de sortir de ce monde très, très normé, le monde des affaires, monde social, de la mondanité, dans le sens un peu réducteur du terme, où l'idée, c'était de nous ouvrir à la différence. Quoi.
Donc là, tu amènes des sans-abri, des jeunes vivant en foyer d'accueil, des détenus, des réfugiés, des personnes en situation de handicap, des résidents d'EHPAD à cette sortie en mer. Ouais. C'est des milliers et des milliers et des milliers qui vont venir sur ce bateau. Sortie en mer en 2014, là, on se retrouve sur un moment que tu considères aussi un moment essentiel, dans ta compréhension, c'est plutôt ça, hein, c'est dans ta compréhension du monde qui t'entoure, où tu te dis, j'ai peut-être un rôle à jouer. Raconte-nous cette rencontre avec Théo.
Théo, c'est ce jeune garçon autiste, 20 ans, qui était venu avec un institut médico-éducatif, avec ses éducateurs, avec il y avait des aides-soignants à bord, et on avait fait une très belle sortie. Il y avait eu un peu de vent. Et donc, c'est sympa parce que le bateau, il pulse dès qu'il y a un peu d'air. Nous, on avait fait construire un bateau rapide. Le but, c'était qu'on s'amuse. Hein. J'ai beaucoup de potes, d'ailleurs, qui me disaient « T'as fait ça pour trouver un bon prétexte pour faire du bateau, quoi. » Ben oui, en fait, l'idée, c'était quand même de s'amuser. Même si l'objectif, il était de pouvoir faire bénéficier la voile à des personnes qui connaissent pas la mer. Le but, c'était d'avoir des sensations. Et on avait eu des bonnes sensations dans la journée. Et Théo, là où on commence à ranger le bateau, à affaler les voiles, à ferler tout ça et à tout ranger, il me décolle pas. Il reste toujours à côté de moi. Et il me dit, je lui dis, mais ça va, Théo, t'es toujours là, tu veux m'aider? Il dit, non, non, capitaine, non, non. Et je lui dis, tu veux me poser une question? Il y a quelque chose. Et là, il me regarde et il me pointe du doigt. Il me dit, oui, capitaine, il paraît que t'es patron. T'as pas un métier pour moi. Et là, j'étais pas du tout préparé à cette question.
T'avais pas les éléments de langage?
Pas du tout. Et là, je me suis dit, d'abord, d'où il sait ça? Bon. Et j'ai même trouvé un peu gonflé. Moi, j'avais l'impression de faire ma BA, de l'emmener faire du bateau. Ouais. Donc, je lui ai répondu aussi brutalement, quasiment, en disant non, j'ai pas de métier pour toi, Théo. Et surtout avec les personnes avec autisme, souvent, tu dis les choses. C'est pas que c'est binaire, mais c'est
assez direct.
Oui, c'est direct. Il n'y a pas besoin de
forcément
de mettre trop de forme. Donc, souvent, même, vaut mieux pas trop mettre de forme si on se comprend plus. Donc, je lui ai dit non. Et là, son visage qui était tout joyeux, tout rayonnant, qui était tout souriant, et là, il s'est refermé. Et il m'a dit, c'est pas juste. Et là, j'ai senti tout de suite que j'avais fait une gaffe. Et donc, j'ai essayé de me rattraper aux branches. C'est lamentable. Je lui ai dit, Théo, si tu veux, on organise une sortie la semaine prochaine. Je trouverai bien une place. Et c'était difficile d'avoir des places à bord des FATA parce qu'il y a beaucoup il y a toujours beaucoup d'attentes. J'étais tout content de lui proposer une solution pour qu'il refasse une navigation.
C'est pas ça qu'il voulait.
Et il me dit, non, capitaine, t'as pas compris. Parce que oui, je suis handicapé, mais je peux être utile. Alors je veux un métier, comme toi. Et là, je suis rentré à la maison et j'étais par terre. Je dis, souvent, je raconte à Lydvine mes sorties dans la journée et tout. Et là, elle m'a vu effondrer.
Elle a vu un truc.
En disant, mais je lui dis, mais en fait, c'est ce qu'on fait, ça sert à rien, en fait. Parce qu'on se donnait beaucoup de mal pour cet assaut. Hein. Ouais. Et puis, il y a 60 bénévoles qui naviguent. Il y a toute une équipe qu'on a embarquée dans ce projet. Quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, que ça sert. Et évidemment que c'est très utile. Ça permet des rencontres incroyables, notamment celle-ci. Mais c'est vrai que là, ça a été le déclencheur pour dire, mais ce qui compte, c'est pas le loisir. C'est pas la voile, aussi sympa que ce soit, et les sensations. C'est pas ça ce qui compte.
Réintégrons-les dans la vie active.
C'est la vie active, c'est le travail. C'est le travail. Nous, on se réalise là autour de cette table, on est heureux parce qu'on a, on a une fonction, on a un rôle, on est attendu. Quoi. Et en fait, ça a été une prise de conscience très forte de dire en fait là où je veux faire quelque chose pour eux. Mais non, mais mais laissons-leur cette liberté de faire quelque chose, eux pour eux, et peut-être même eux pour nous, ou eux pour les autres.
Donc là, tu rentres le soir, ou la fin d'après-midi, t'es effondré, t'en fais quoi de ça?
Ça travaille un petit peu, on réfléchit, on rumine un peu, mais je continue. Je pense que ça, en fait, ça a mis du temps à germer, puisqu'il s'est passé quasiment un an et demi.
Non, on était en 2014.
On était en 2014, et c'est fin 2015... que je vois un...
Vianney-Marie.
Alors, Vianney-Marie, c'est un équipier. C'est un équipe qui est devenu un équipier. C'était un jeune gars trisomique, 18 ans, qu'on recrute dans l'hôtel.
Donc, il devient assistant joyeux.
C'est mon assistant joyeux qui écrivait les petites cartes pour... quand tu arrives dans une chambre, tu as un petit mot d'accueil. Ouais. C'est lui qui faisait les mots d'accueil.
Quand tu le recrutes, c'est une des conséquences de cette discussion avec Théo? Ou juste un concours de circonstances?
C'est une conséquence. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire, mais finalement, ce Théo ou les autres, effectivement, il faut trouver une solution. Et quand je rencontre Vianney-Marie et que je vois qu'il est potentiellement capable de travailler, je teste avec lui, je dis, tu sais faire quoi? Ben, je dis, moi, j'écris des cartes à ma famille. Eh ben, tu vas écrire les petits mots. Et en fait... Il a fait, il faisait 9 cartes en une journée de travail. En fait, il travaillait 5 heures de suite avec quelques pauses. Et en 5 heures, il arrivait à faire 9 cartes. Donc, c'était pas suffisant. Surtout qu'il travaillait pas tous les jours. Mais c'est pas grave. On se dit, c'est bien. Parce qu'il mettait tellement d'amour dans chaque carte que je disais, ça aura forcément un impact sur le client quand il arrivera et qu'il rentrera dans sa chambre. Peut-être qu'il le verra. Peut-être qu'il ne le verra pas, mais il me disait, bon, il faut continuer à faire travailler Vianney-Marie là-dessus. Et en fait, il a bossé Vianney-Marie, mais il continue, ça fait 10 ans, hein, il est toujours embauché à l'hôtel Castelbrac. Ensuite, il a voulu faire autre chose, on lui a proposé de travailler en cuisine. Et le chef, très sympa, chef d'un resto gastro, quand même, une étoile au guide Michelin, Julien Hénotte, un chef formidable, a dit, bah, Vianney, je vais le prendre en cuisine. Et Vianney, il commençait à éplucher les légumes. Et ensuite, tu as des convives qui venaient, qui avait réservé une table, pourquoi pas, le restaurant de l'hôtel, et qui demandait à voir, il paraît que vous avez un jeune gars sympa là, qui épluche les légumes, est-ce que je peux aller le voir en cuisine? Et donc le chef disait, bah, c'est incroyable, il rentre dans ma cuisine pour voir Vianney, c'est pas pour me voir. Et donc on s'est dit, bah, Vianney, on va le faire travailler en salle. Et c'est là qu'on l'a fait bosser en salle. Donc là, aujourd'hui, il bosse encore en salle.
Pourquoi pas.
Il fait le petit déjeuner, en fait, parce que c'est aussi un...
Donc pour tous ceux qui veulent voir Vianney, la star,
la star,
vous allez au Pourquoi Pas, à Dinard, au Castelbrac, au petit déjeuner. Pas au dîner.
Le petit déjeuner. C'est notre premier assistant joyeux qui est devenu en fait un équipier joyeux.
C'est ça qui te fait comprendre que tu pourrais démultiplier la joie de rentrer dans la vie active des Vianney de ce monde. C'est ça que tu dis, c'est que les neuroatypiques, parce que c'est de ça dont on parle, hein, ont un rôle à jouer comme toute personne.
En fait, évidemment que je cherchais, un projet pour pouvoir recruter ces personnes-là. Et quand on a testé avec Vianney, au départ, je ne savais pas vraiment que ça allait être dans la restauration. Et en voyant qu'il était capable dans le restaurant, là, on s'est intéressé au sujet en disant, mais il faut absolument creuser. Et c'est là qu'on a eu cette idée de monter un coffee shop.
Qui a eu cette idée?
L'idée, je l'ai eue avec Lidvin. En fait, j'ai d'abord eu en étant, j'étais seul à Jersey quand j'ai accompagné mes enfants parce que mes enfants allaient à l'école là-bas. Je prenais le ferry pour accompagner. Ils étaient pensionnaires pendant un an à Saint-Hélier, une île anglo-normande avec un marché. J'avais du temps pour reprendre mon bateau retour et je me balade dans le marché et il y avait un café tenu par des petites dames âgées qui s'appelait Pure Charity Coffee Shop. Et là, je les voyais, ces petites dames, toutes gentilles, avec leurs petits tabliers, leurs petits manteaux en dentelle, là, et qui servaient des cafés lattés, du thé à l'anglaise. Hein. Et en fait, c'était, je vais les voir, je me renseigne, elles m'expliquent, c'est un coffee shop généreux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Tous les bénéfices, tout ça, ça sert pour pouvoir aider les personnes âgées. Mais c'est génial. Génial. Le déclencheur, il était là sur le...
Ce jour-là, sur le coffee shop.
Ouais. Et ensuite, c'est devenu évident parce que le lien avec Vianney qui travaillait à l'hôtel Castelbrac, on s'est dit, mais ça va marcher, quoi. Au moins qu'on en fasse un, quoi.
Et c'est important, là aussi, qu'on indique ça pour les gens qui veulent se lancer, qui peuvent se lancer, c'est que ça peut prendre du temps. Ouais. Entre 2014, t'es avec Théo, t'es effondré, et là on se retrouve en 2017.
2017, le premier.
Donc ça prend quand même un peu de temps et c'est important. Tu parles de joyeux, d'équipier joyeux, d'assistant joyeux. Il vient d'où ce mot joyeux ?
En fait, quand on était dans l'équipe, à un moment, parce qu'au départ, Vianney venait en immersion à l'essai, et puis à un moment, on a décidé donc de lui proposer un contrat de travail. Quand on a commencé à réfléchir, c'est quoi son poste dans son contrat. Et alors, il se présentait toujours en disant « Bonjour, je suis l'assistant joyeux de mon patron ». Alors, il disait toujours ça, parce que quand on le présentait, parce que des gens, il aimait bien se présenter. Il arrive avec son costume, enfin, sa veste, cravate.
Il est fier.
Très fier. Et il est très beau. Il est beau, il vient en trottinette, mais très, très chic. Et du coup, les équipes disaient, j'avais une secrétaire là-bas qui me disait, mais en fait, c'est vrai que quand il n'est pas là, il nous manque cette joie. Il y a ce quelque chose de joyeux qui nous manque. Donc, on s'est dit, appelons-le l'assistant joyeux. C'est comme ça, tout simplement.
C'est génial.
C'est comme il n'avait pas de rôle vraiment défini, il faisait pas mal de choses différentes au début, c'était plus facile de donner un titre comme ça.
On parle de Café Joyeux, donc là, on se retrouve dans le premier lancement qui ne va pas être trop loin, même si Rennes, c'est quand même assez loin.
Trois quarts d'heure de route.
Mais avant ça, tu es un entrepreneur social. Est-ce qu'il y a une discussion à un moment ou à un autre de vivre justement sur les subsides potentiels de donateurs? Très rapidement, tu t'es dit que ça devait être une entreprise. Est-ce que tu as eu cette discussion? Est-ce que vous avez eu cette discussion à l'Edvine de quel côté la pièce allait tomber ou c'était très clair pour toi, il fallait que ça soit une entreprise avec un modèle économique?
Et c'était très clair, il fallait que ce soit une entreprise. Il y a eu une petite réflexion, savoir s'il fallait qu'on en fasse une entreprise en mode start-up. Pourquoi une entreprise? Parce qu'on voulait vraiment... pouvoir mettre le meilleur de l'économie, du système en place, attirer des talents. Je ne dis pas que l'associatif n'attire pas de talents, mais là, il y avait une envie de créer un modèle économique durable et pour ça, pour moi, l'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus efficace. La question, ça a été comment on structure l'entreprise au niveau organisationnel, au niveau capitalistique. Et assez vite, on s'est dit finalement, il faut que ce soit une entreprise désintéressée. C'est-à-dire, je veux pas bénéficier personnellement du travail de nos futurs équipiers. Donc, on a labellisé l'entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. On a eu ce label, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Je voulais pas qu'il y ait des actionnaires individuels ou actionnaires institutionnels ou fonds d'investissement. Peut-être que j'aurais dû, parce que ça, c'est un vrai sujet, on en avait discuté, Alexandre, parce que ça m'aurait peut-être apporté plus de moyens. Et en même temps, je n'avais pas non plus la prétention et l'envie de scaler le truc de façon dingo. Donc, je me suis dit, avec la philanthropie, avec le mécénat, on arrivera à financer les quelques cafés, quoi. Je pense que j'ai une sorte de mission de vie, j'aime bien ce mot. Je pense qu'on l'est tous pour ça, pour diffuser de l'amour, vraiment. Chacun en fonction de ses talents. Et moi, plus spécifiquement, c'est de créer de la valeur avec nos différences, ensemble, pas moi tout seul, et de la partager.
Parlons de financement. Financé via le fonds de dotation Émeraude Solidaire, financé via des dons d'associations, des entreprises, la capacité d'avoir des baux, parce qu'il faut quand même mettre les cafés qui seront pas chers ou quasiment au prix coûtant. Explique-nous le modèle économique aujourd'hui d'un café joyeux.
Alors,
est-ce qu'il a changé d'ailleurs entre le premier à Rennes et quand tu aujourd'hui t'es aux États-Unis, t'es dans plein d'endroits, est-ce que c'est toujours le même?
Alors le modèle, on l'adapte en fonction des emplacements, mais globalement c'est à peu près le même, c'est-à-dire que on a un restaurant qui fonctionne avec trois niveaux de coûts, c'est le loyer avec les charges externes, toutes les charges qui sont liées à ça, la matière première, les food costs, et puis la masse salariale. Et là où un restaurant, la masse salariale en général, ça va entre 20 et, allez, je vais une fourchette très large, entre 20 et 40%, 20-22% à un Starbucks, et puis tu vas aller 35% à un gastro, un étoilé, ça peut aller jusqu'à 40% en masse salariale, parce qu'il y a du monde. Nous, on est à 55%, notre taux de charge salariale.
Pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'il ce que donc tes équipiers travaillent moins leur nombre d'heures, donc tu dois multiplier le nombre d'équipiers pour avoir à peu près le même service.
Exactement. Et il y a plus de monde, aussi dans le café parce que
Le service est un peu plus lent.
Il y a toute une phase d'apprentissage, le service est plus lent, on n'a pas le même débit, on ne fait pas autant de chiffre d'affaires que... Donc, en fait...
Donc, ce que tu dis là, c'est qu'il n'y a quasiment pas de modèle économique.
C'est compliqué d'être à l'équilibre, sauf à aller chercher deux choses.
Baisser
la générosité des gens, par exemple, on a un café joyeux sur les Champs-Élysées, là où on s'était rencontrés...
La
première fois, Alexandre, et ça... on ne paye pas le loyer. Ouais. Donc,
C'est que tu peux baisser les deux autres éléments. Donc là, c'est celui qui... Donc le propriétaire, c'est intéressant que tu y sois toujours, parce que quand on s'est rencontré il y a des années de ça, c'était le propriétaire, donc celui qui a le bail, qui était en train de faire des travaux et qui vous avait dit, vous y installez le temps d'eux, c'est un message qui sera porté. Ce que tu me dis là, c'est que ce bail continue, en fait.
Il continue parce que en fait...
Donc, c'est
Groupama.
Merci, Groupama.
Merci, Groupama, parce que, en fait, grâce à une femme chez Groupama qui a déclenché tout ça auprès de son connex.
On adore.
Laetitia Georges, une fille...
Merci, Laetitia.
Une fille incroyable. Une fille qui est allée prendre des risques, et elle est allée convaincre toutes... Alors après, il y a eu un vrai engagement de toute l'équipe de Groupama, et ça a été génial de voir qu'ils ont dit, allez, on pourrait le louer très cher, non, on va le mettre à disposition. Ils ont vendu l'immeuble. C'est public, mais ils ont mais formidable. Éric Donnet, avant de signer, a organisé un petit déjeuner avec son acheteur en disant au Café Joyeux, en disant là, je t'explique, il y a quand même des occupants là, ceux-là,
si
tu peux les garder. Et donc on est toujours là au bout de 3 ans et demi.
Donc ce qu'il faut pour que tu sois dans des bons emplacements, parce que là aussi ce qui est important par rapport au message qui est porté par Café Joyeux, c'est pas uniquement quelque chose pour faire uniquement plaisir et rendre dans la vie active des personnes neuroatypiques, c'est également que les gens se rendent compte de l'utilité sociale et de la normalité de ces gens que vous allez rencontrer quand vous allez commander votre nourriture. Donc là, t'es trouvé. Donc là, il y a vraiment à chaque fois d'avoir des deals à trouver.
Il y a une forme de générosité, de gratuité quelque part à aller chercher. Et ça, on y arrive, pas dans tous les cas, mais parfois. Et là, c'est un bon exemple. Et puis, il y a une générosité liée au mécénat. Donc, tu as des donateurs qui vont alors, et on revient sur la structure juridique, c'est qu'ils vont aller donner à l'actionnaire unique des Cafés Joyeux, qui est une fondation, un fonds de dotation, donc un organisme sans but lucratif, qui lui, va faire appel à la générosité du public, et notamment de fondations, de grandes familles, d'entreprises qui trouvent que le projet a du sens et qui vont aller financer l'actionnaire. Et ça, c'est sûr que ça nous aide à pallier au problème de... Et puis alors, on a une deuxième chose qu'on a lancée, et c'est vrai que ce n'était pas au départ, la marque de café qui s'appelle en grain, du Café Joyeux, en grain, en capsule. C'est des purs arabica, c'est du café de spécialité, c'est une femme qui est meilleure ouvrière de France qui nous a sélectionné les cafés.
Ça, aujourd'hui, on peut l'acheter aussi bien dans le beau café, mais aussi en ligne.
En ligne, on peut l'acheter, on est ici, si tu commandes sur Internet avant 18h, t'es livré le lendemain chez toi, et on le fait en café moulu, en grain, en capsule. En fait, c'est un produit qui est formidable, quelque part, il n'y a pas plus basique que le café, c'est une pure commodité, c'est un produit de première nécessité, sauf que celui-ci, il est unique, parce que d'abord, il est très bon, mais surtout... Il est totalement désintéressé en sens où 100% des bénéfices liés à la vente de ce café permettent
l'ouverture des cafés. Donc, il s'est écrit dessus, ça me fait penser à nouveau des gens exceptionnels que nous avons eu à ce micro, Nicolas Chaban de
C'est qui le patron,
lui aussi passe son existence à convaincre que la consommation peut être différente et tu peux, selon l'utilisation de ta carte bleue, tu peux acheter des produits qui ont un impact positif sur les agriculteurs qui ont terriblement besoin d'être aussi payés, et là je dis pas aidés, d'être payés au juste prix.
Et là, ce qu'il fait Nicolas, c'est génial.
Et donc ce que tu dis, 100%, c'est ce qui est écrit sur ce paquet, il y a un petit merci avec un cœur, et tu dis 100% de nos bénéfices contribuent à l'ouverture de nos cafés-restaurants éponymes et permettent à l'emploi de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Merci pour ce que vous faites, et encore une fois, la manière dont vous le faites. Je continue sur ce sujet-là. Le message que tu portes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plusieurs cafés. Vous êtes à combien aujourd'hui
Là, on a ouvert le 16e café. Et là, on ouvre le 17e.
Alors. Voilà, donc, et donc ça continue, et puis c'est l'international. Si tu dois te projeter à quelques années, tu me parlais d'aujourd'hui, tu n'as pas envie d'être ni Starbucks, en effet, pour des gens qu'on connaît. Est-ce que toi, tu te dis qu'à 25, à 30, à 40, c'est ce chiffre-là, tu as envie d'être dans quelques capitales européennes ou américaines? À quel moment tu te diras, le message est passé?
Je pense qu'on n'aura jamais fini de passer le message tant qu'on aura des personnes qui, à cause de leur handicap, à cause de leur différence, sont obligées de mendier, vraiment ça, de mendier pour avoir un travail. Notre sujet, c'est l'inclusion par le travail, par la formation, puisqu'on a lancé une école, on pourra en parler, et par la rencontre. La rencontre permet effectivement de changer le regard. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le regard... peut-être qu'un jour, on arrivera à un monde parfait, mais il y a
j'en doute.
Tellement à faire. Ouais. Il y a 750 000 personnes en situation de handicap mental en France. Tu te rends compte? Aujourd'hui, on allait, même avec cet objectif de 25-30, on aura quelques centaines, quelques milliers au mieux d'équipiers en situation de handicap recrutés.
Justement, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que tu passes le message, tu justement lead, tu... En montrant c'est faisable, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux personnes qui ont l'aurait la possibilité, pas d'avoir un café joyeux, mais d'embaucher justement cette population qui est aujourd'hui beaucoup plus au chômage, puisque les taux sont dramatiques. Hein. Mmh. Est-ce que tu as un message à passer, quelque chose que tu as vu, quelque chose qui pourrait les faire changer d'opinion?
Il faut ce premier petit déclencheur. Voilà ce qu'il faut. Ce déclencheur, c'est dire, allez, j'y vais, même si j'ai peur, même si je pense que ça ne marchera pas forcément bien dans mon équipe, essayons. Recruter une personne, alors je veux juger personne, parce que nous, on a structuré les Cafés Joyeux complètement pour ça, pour les accueillir. C'est plus facile.
Oui, mais Vianney, tu me dis, Vianney, c'est comme ça que tu as commencé.
C'est comme ça que j'ai commencé.
T'as tenté.
Et ça a apporté, et Vianney continue d'apporter beaucoup. Alors il a besoin d'une personne en permanence pour pouvoir l'aider. Donc c'est sûr si on raisonne performance...
C'est pas ça
que ça marchera.
Mais court terme.
Court terme, mais à long terme, ça contribue à la culture d'entreprise. C'est que du positif et c'est de la joie.
On va écouter une autre pause amicale d'un patron d'un grand groupe, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui va te poser cette question.
Bonjour Yann, je suis Guillaume Rimaud, directeur général d'Indosuez France. Yann, quelle est votre politique d'ouverture de restaurants Café Joyeux dans les sièges des grandes entreprises au sein desquels il y a bien sûr un besoin de restauration, mais aussi un besoin de joie. Je suis certain que les équipiers joyeux apporteraient cette gaieté dans le monde du travail des grands groupes. Qu'en penses-tu?
Très sympa, Guillaume.
Très bonne question, Guillaume.
Merci pour la question, Guillaume. Non, mais c'est effectivement une vraie stratégie de déploiement.
D'accord.
Aujourd'hui, on l'a dit, c'est très dur d'équilibrer un café en centre-ville, même si on y arrive, mais c'est
compliqué.
C'est complexe. Là où on arrive à faire de l'inclusion dans les entreprises, tout simplement, en prenant la place de... Alors, on va prendre quelques places, il y a tellement de places à prendre, mais...
Quelques Sodexo, ça.
De Sodexo Elior, ou des Compass ou autres, qui font la restauration collective et qui font ça très bien, mais là, nous, on apporte quelque chose de différent avec nos équipiers, et... Là, on l'a fait depuis 2 ans en mode expérimental chez Clésia. Ça marche vraiment bien. Le DRH de Clésia, c'est le plus grand ambassadeur du modèle. Il dit que ça transforme ses équipes et que ça fait du bien à tout le monde. Puis c'est génial. Si tu fais de l'inclusion, c'est au pied de ton immeuble, là où tu as tous tes collaborateurs, les visiteurs le voient. Et oui, ça produit de la joie. Guillaume, tu as raison, ça produit de la joie. Nous, en tout cas, on a ces retours-là de la part de Clésia, avec en plus une chose de supplémentaire par rapport à un café joyeux, c'est qu'il y a des relations qui se font entre les collaborateurs de l'entreprise et nos équipiers, puisque là, ils se voient tous les jours. Donc ça change tout. Donc là, on va ouvrir un café joyeux inside chez
Crédit Agricole.
Si tout va bien, il ouvrira fin janvier. Donc ça, c'est aussi une grande joie, parce que là, c'est sur un gros hub de 15 000 personnes à Montrouge. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde.
Donc, selon toi, ce modèle pourrait être un modèle pertinent parce que autofinancé d'une certaine manière,
par
des gens qui, là aussi, se rendront compte qu'il y aura certainement des coûts peut-être supplémentaires, mais ce que ça apporterait à leurs collaboratrices et leurs collaborateurs permettrait, en fait, d'équilibrer le développement de ces cafés joyeux. On devient fort quand on accepte ça.
Vulnérabilité.
C'est le slogan. Hein. Et toi, elle était où, ta vulnérabilité?
Écoute, tu vois, j'étais pas le premier de la classe. Je pense pas être brillant, tu vois. Ma vulnérabilité, ça peut être... parfois vouloir tout contrôler, justement. Dès l'instant, ma vulnérabilité, c'est de penser que je vais trouver la solution par moi-même et finalement, quand tu lâches prise et que tu commences à écouter ton cœur, là, il se passe des choses dingues, quoi.
En tant que chef d'entreprise, comment tu te définis? Tu sais à peu près ou tu sais très bien où t'es. Parfois, tu te laisses un peu aller. T'es très militaire. Est-ce que t'es plutôt Saint-Jo, si on se souvient, en disant juste c'est comme ça et pas autrement, ou justement tu peux laisser une certaine créativité, un certain romantisme dans ton dans ton management?
Non, moi je suis plus latin, on va dire, dans mon approche, avec plus de j'aime la relation, le rapport humain, donc j'aime les relations de travail physique, même si on bosse en télétravail aussi comme tout le monde, mais on aime beaucoup se faire confiance. Ben, je travaille beaucoup sur la confiance, plus que sur l'organisation et le process. Maintenant, j'essaie de m'entourer de gens qui sont très processés.
D'accord. Et qui
viennent me compléter.
Yann, je te propose une dernière pause amicale. Un copain commun, on l'écoute.
Bonjour Alexandre et bonjour Yann. Quelle émotion d'avoir deux de mes gourous réunis. Écoute Yann, moi tu sais le respect, l'admiration que j'ai pour toi et pour le magnifique projet que tu portes, Café Joyeux. Voilà, et je crois que ce que tu as fait est absolument hors norme et extraordinaire. Et donc tu as une très très lourde responsabilité maintenant de faire que ce projet soit pérenne. Et donc ma question, c'est comment t'organises-tu aujourd'hui pour t'assurer que Café Joyeux, dans 20, 30, 40, 50 ans, soit l'une des plus belles marques au monde et qui porte ses valeurs de partage, de solidarité auprès des plus fragiles. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.
Ah là là, Augustin, ben là, c'est sans plus une question comme ça qui vient de toi, là, je suis tout retourné parce que, eh oui, c'est une énorme responsabilité. Et en plus, c'est Augustin qui me l'a dit.
Donc Augustin Paluel-Marmont, ouais. Cofondateur de Michel Augustin, marque qui est très connue en France, mais à l'étranger aussi, qui a été rachetée par Danone. Augustin qui connaît bien ces sujets-là, parce qu'avec son épouse Victoire, ils ont une jeune fille qui est aujourd'hui ce neuroatypique. Donc, c'est des sujets de connexion forte qu'il a toujours eu avec toi. Et là, cette vision en plus, c'est Michel Augustin, lui... en se faisant racheter, a certainement fait que cette marque continuera, espérons-le, pendant des années et des années.
J'ai une grande chance, j'ai commencé par ça, c'est que cette entreprise ne m'appartient pas. Donc je ne vais pas avoir de problème de transmission, chose comme ça, c'est une fois encore, c'est une entreprise à mission, d'intérêt général, détenue par un organisme sans but lucratif. Donc tu me demandes comment assurer la pérennité et d'assurer le fait que ça sera durable pour les plus fragiles, pour reprendre tes termes. En fait, nous, on a fait notre part avec Litvin. On va continuer de la faire, mais on sait que la mission, elle va durer au-delà de nous, bien sûr. Et aujourd'hui, on cherche à s'entourer de gens meilleurs que nous. Et c'est ce qu'on a fait déjà depuis le début. On a trouvé des talents. Il y a toute une génération de jeunes incroyables qui arrivent, qui sont des jeunes qui veulent donner du sens, des jeunes qui sont prêts à sacrifier une partie de leur confort pour avoir une activité qui change des vies. C'est ce qu'on fait au Café Joyeux et c'est ce qu'on va continuer de faire. Et moi-même, j'espère me faire remplacer par des gens bien supérieurs à moi et qui seront capables de prendre la relève et surtout d'assurer une transition dans cette croissance incroyable, parce que cette croissance, elle ne doit pas se faire au détriment du soin qu'on doit apporter à chacun de nos équipiers. Dans la question d'Augustin, il y a une part de réponse. C'est effectivement, je pense, un déploiement sans chercher la folie des grandeurs, parce que moi, ce qui compte, c'est le bien qui est porté à chaque équipier personnellement. C'est leur bien-être, c'est ça ce qui compte plus que la taille et plus que le nombre d'emplois. Donc, tant qu'on a cette préoccupation-là déjà, je pense qu'on assure une forme de durabilité. Et puis, la durabilité économique, elle va passer par l'innovation, par la commercialisation de produits. Et comment je m'organise dans la question d'Augustin? Il y a deux choses. C'est d'abord, on a lancé un centre de formation d'apprentis joyeux, qui est une école Et ça, c'est déterminant parce qu'on délivre un diplôme reconnu par l'État à nos équipiers.
Donc, ils peuvent travailler ailleurs.
Ailleurs, parce que l'entreprise, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est eux. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient la liberté un jour, là où la plupart, tu les interroges, ils diront, moi, qu'ils veulent travailler toute leur vie au Café Joyeux. Mais t'imagines la pression que c'est pour nous. Eh bien, en fait, ils vont avoir cette liberté d'aller postuler dans une autre entreprise grâce à ce diplôme.
Diplôme qui est reconnu d'État.
Qui est reconnu d'État. Donc ça, c'est une façon de nous organiser. Et puis après, pour répondre aussi à Augustin, qui je pense, approuvera ça, j'essaye de m'entourer de gens bien meilleurs que moi. De gens capables de me dire qu'ils sont pas d'accord avec moi, de me dire j'ai pas la vérité, j'ai pas la science infuse là-dessus. Autant Lidvin et moi on veut être garant des valeurs, autant sur la partie déploiement, business et autres, mais je suis un débutant.
Tu parlais des nouveaux produits. Qu'est-ce que tu aurais en magasin après le Café Joyeux? Tu lancerais d'autres produits que du café?
Peut-être développer. Là, on a commencé à développer une gamme de thé. Voilà, beaucoup de produits qui sont en lien avec notre offre de restauration. Mais aujourd'hui, dans le café, il y a déjà tellement à faire. Mais...
On parlait du futur dans 30 ans, 20 ans, 40 ans. Est-ce que parfois tu dis, tu aurais dû commencer ça un peu plus tôt?
Oui, oui. Ça, c'est vraiment le message, je pense, qu'il faut passer aux jeunes, c'est attendez pas trop. C'est bien d'acquérir des talents dans les grosses organisations pour pouvoir effectivement progresser vite et bien et avoir un bon socle. Mais si je l'avais fait plus tôt, peut-être que j'aurais encore plus d'énergie pour le faire plus et mieux.
Tu crois au destin? Tu penses que les choses arrivent à un moment où elles doivent arriver?
Oui, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois à la providence. Donc, je me dis, il n'y a pas de regret.
Ça n'aurait peut-être pas fonctionné quelques années avant.
Oui, tu as raison, Alexandre.
Mission de vie. Tu arrives aujourd'hui à pouvoir l'écrire? Pourquoi tu es là?
Oui, je pense qu'on l'est tous pour ça, pour diffuser de l'amour. Vraiment. Chacun en fonction de ses talents. Et moi, plus spécifiquement, c'est de créer de la valeur avec nos différences, ensemble, pas moi tout seul, et de la partager.
Diffuser de l'amour, voilà la mission de vie de Yann. Je vous propose maintenant une pause musicale. Yann, quelle est ta chanson culte?
Bah, je suis un fan de Bob Marley.
Laquelle?
One Love.
One Love. On écoute un extrait. Pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt?
Oui.
La pire chose que tu serais capable de pardonner?
On me fasse du mal, que l'on m'insulte, que l'on m'humilie, que l'on me dépouille, je pardonnerai. Je pense que je serais capable. Incapable de le pardonner si c'est sur un membre de ma famille ou sur un...
Toi oui, mais pas à ce thème.
Oui. Et
voilà. Quel défaut t'inspire le plus d'indulgence?
Le manque d'intelligence dans le sens intellect.
Ta plus grande peur?
De blesser des gens.
Si tu pouvais déjeuner ou dîner à quelqu'un de connu, mort ou vivant, qui ce serait?
Là, il y a une dimension spirituelle, mais bon, évidemment, Jésus, qu'est-ce que j'aimerais le voir? Qu'est-ce que tu t'imagines? Parce que là, c'est chaud. Ah, mais c'est tellement...
J'accepte facilement la réponse.
Même au-delà de la dimension spirituelle, c'est historique. Il me fascine. Tu t'imagines un homme qui est capable de dire qu'il faut aimer ses ennemis, quoi. Imagine, que c'est un révolutionnaire, ce mec. Non, mais je dis, je pense qu'une heure et demie me rendrait meilleur, ouais. Quoi.
Quelle est ta destination idéale pour faire une pause?
La Bretagne.
Ah oui, j'entends bien, mais la Bretagne Nord, je suis sûr, tu vas me dire la Côte d'Emeraude.
La Côte d'Emeraude.
Et c'est un endroit? Un endroit où tu...
Si c'est avec Lidvin, ma femme, Saint-Lunaire.
Saint-Lunaire.
C'est un coin magnifique, très apaisant.
Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, lesquels tu utilises ?
Alors, j'utilise LinkedIn, mais c'est vrai que je ne suis pas très assidu, mais j'essaye de répondre. J'essaye, mais j'ai eu beaucoup de retard.
Donc, plutôt LinkedIn que le reste.
Oui, c'est le seul réseau que j'utilise vraiment.
Yann, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci, Alexandre.
Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.